Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, margarine, huile, produits laitiers, ils sont de plus en plus enrichis en oméga 3. Alors selon les industriels, ils sont la recette miracle pour faire baisser votre mauvais cholestérol au profit du bon, jouer sur votre tension artérielle, sur la croissance de votre enfant, participerait aussi au traitement de cancers et de maladies touchant les intestins. Alors, les effets des oméga 3 sont-ils aussi spectaculaires qu'on le dit? Ou est-ce de la poudre de perlimpinpin? Faut-il nous remettre à la bonne cuillère d'huile de foie de morue pour vivre longtemps, en bonne santé et booster notre quotient intellectuel? C'est ce que nous allons voir avec l'auteur du livre « La vérité sur les oméga-3 » paru chez Odile Jacob avec le docteur Jean-Marie Bourg, neurotoxicologue. Docteur Jean-Marie Bourg, bonjour.
Bonjour.
Merci tout d'abord d'être avec nous.
Mais c'est un vrai plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour parler des oméga-3 et d'une manière générale d'ailleurs des aliments qui touchent la structure et la fonction du cerveau.
Alors c'est un plaisir partagé. Pour vous présenter, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, peut-être que vous nous en parlerez plus en détail, spécialisé dans la chimie du cerveau et ses apports à la nutrition. Vous êtes l'un des découvreurs des effets des oméga-3 sur le cerveau et parmi les livres que vous avez publiés, qui font date, Diététique du cerveau, la nouvelle donne, Les aliments de l'intelligence, la diététique de la performance et puis sur les oméga-3, qui est donc votre sujet de préoccupation depuis 25 ans, La vérité sur les oméga-3, qui est donc le livre un peu qui va nous servir d'appui tout au long de cette émission. Tout d'abord, Jean-Marie Bourg, les oméga-3, on dit les oméga-3 pour faire simple.
On ne les appelle pas les oméga-3 parce qu'ils sont trois. En fait, ils sont trois d'intérêt pharmacologique et nutritionnel.
D'accord.
Mais en réalité, ils sont beaucoup plus nombreux. Alors, il faut revenir en arrière. Il faut revenir en arrière en termes de définition. En effet, nous absorbons des graisses dont le synonyme est lipide. Le mot graisse est quelque peu péjoratif. Hélas, le mot lipide est un terme beaucoup plus scientifique. D'une manière générale, nombre de ces lipides sont définis par la nature de leurs acides gras. Tout le monde connaît les triglycérides de notre sang, les esters du cholestérol de notre sang. Ce sont des substances qui contiennent des acides gras. De ce fait, une graisse, une huile sera dite saturée quand majoritairement ces acides gras seront saturés. Tout le monde pense immédiatement aux graisses d'origine animale. C'est une erreur. Il y a des graisses d'origine végétale qui sont moins bonnes en termes de santé. J'allais même dire quelque part pire, puisque vous avez, par exemple, de la graisse de palmiste qui fait très, très saturée. On parlera d'une graisse ou d'une huile monoinsaturée quand la majorité de ces acides gras seront monoinsaturés. Et tout le monde connaît bien l'huile d'olive avec son acide oléique, qui est l'acide gras monoinsaturé type, qui fait la gloire du régime méditerranéen. Il n'y a pas que ça, mais cette huile d'olive bénéficie d'une aura, quelque peu exagérée d'ailleurs, mais qui repose quand même sur un socle extraordinairement sérieux. Et puis enfin, il y a des graisses non polyinsaturées avec des acides gras polyinsaturés. Et c'est là que l'on rentre dans le vif du débat. Pourquoi ceci? Parce que ces acides gras polyinsaturés, avant que les chimistes n'en découvrent la structure chimique, on les appelait comment? On les appelait vitamine F. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en l'absence de graisse, la vie est strictement impossible. On commence par être malade, bien malade, et on finit par en mourir. Il y a dans le gras, dans les lipides, des substances qui sont absolument indispensables à la vie, qui furent appelées vitamine F et que l'on n'a plus du tout le droit d'appeler vitamine F. Pour une raison bien simple, c'est que ces substances répondent à toutes les définitions des vitamines, sauf une seule, c'est qu'il nous en faut des quantités très importantes qui, en termes de calories, s'avèrent non négligeables. Cette vitamine F est en réalité constituée de deux molécules différentes. L'une est le chef de la famille oméga 6, nous voilà donc dans les oméga quelque chose, le chef de la famille oméga 6, qui s'appelle l'acide linoléique. Et l'autre est le chef de la famille oméga 3 qui s'appelle l'acide alpha-linolénique. Excusez-moi de la difficulté de prononciation de ces noms qui traduisent peut-être le manque d'imagination des chimistes. Avant d'être médecin, je suis ingénieur chimiste, donc je puis me permettre de critiquer cette profession. En termes de nutrition, c'est là que les choses se simplifient, si l'on peut dire. Les graisses saturées, on en consomme un peu trop. Par principe des vases communicants, les graisses monoinsaturées, les huiles monoinsaturées, plutôt devrait-on dire, puisqu'elles sont liquides, nous n'en consommons pas assez. Et pour ce qui est de l'ancienne vitamine F, des oméga-6 et des oméga-3, les oméga-6 essentiel, indispensable. Les deux noms sont synonymes. Et c'est là où on voit d'ailleurs la richesse de la langue française. Chez les anglo-saxons, il n'y a qu'un seul mot, essentiel, que l'on traduit chez nous par essentiel, alors qu'il y a un autre mot indispensable. Et ces deux mots ne veulent pas dire exactement la même chose. Malheureusement, ils sont confondus. Donc, ces oméga-3 et ces oméga-6, en termes de nutrition, se posent un problème nutritionnel, puisque les oméga-6, nous en consommons un petit peu trop, alors que les oméga-3, nous en consommons majoritairement des quantités très insuffisantes, puisque nous ne consommons que moins de la moitié des recommandations. Donc j'en arrive aux les oméga-3, qui était l'objectif de votre question. Les oméga-3 au pluriel, comme les trois mousquetaires, ils sont quatre. Ils sont quatre, ils sont même plusieurs, mais ils sont quatre. Le premier, je viens de l'évoquer, c'est l'acide alpha-linolénique, dont l'acronyme est ALA. Il est suivi d'un autre oméga-3 que peu de gens connaissent, sauf dans le Dijonais, béni soit le Dijonais. C'est l'acide que l'on appelle stéaridonique, peu importe son nom. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'on le trouve en quantité très importante dans l'huile de pépin de cassis. Donc vous voyez où j'en venais avec le Dijonais. Et puis il y a derrière un autre acide qui s'appelle, retenez-vous bien, l'acide eicosapentaénoïque. Ne cherchez pas à le retenir, son acronyme c'est EPA. Et EPA, c'est un acronyme que l'on voit souvent, notamment dans le monde de la pharmacologie, puisqu'il intervient directement dans la protection cardiovasculaire. Et il est enfin terminé par un dernier acide gras, qui est celui qui présente la chaîne carbonée la plus longue, avec le plus d'insaturation, dont le nom chimique est l'acide docosahexaénoïque. Ne cherchez pas à retenir son nom habituel, c'est l'acide cervonique, car c'est le cerveau qui en contient dans la création le plus en termes de structure, bien évidemment, pas en termes de réserve énergétique. Et cela fait d'ailleurs 25 ans que je travaille à titre de recherche personnelle. J'ai dirigé des unités INSERM dédiées à la toxicologie, comme vous l'avez évoqué, ensuite à la pharmacologie et ensuite aussi à la nutrition. Et il y avait dans cette unité un projet de recherche qui était le mien, qui était en tant que directeur d'unité. J'avais le droit d'avoir mon petit projet de recherche. Quelques pourcents des personnels de l'unité étaient consacrés à ce projet-là. C'est l'effet des oméga-3 sur la structure du cerveau et par voie de conséquence sur son fonctionnement. Quand j'ai commencé ce travail, il y a maintenant 25 ans, on m'a considéré littéralement comme un fou. Et la chose a d'ailleurs été écrite car il était inimaginable. Remettez-vous 25 ans en arrière. Je me trouvais devant un aéropage de personnalités auxquelles je devais demander un budget pour faire ma recherche, personnalité de l'INSERM, du CNRS, pour ne pas les nommer. Et comme c'était du cerveau, c'était des neurologues et des psychiatres. Oui. Et j'avais en face de moi des psychiatres à qui je devais demander de l'argent et je devais les convaincre qu'une graisse, à l'époque, 25 ans en arrière, c'était l'abomination, c'était l'obscénité, prononcer ce mot dans le monde de la nutrition, c'était la garantie d'évoquer toutes les pathologies de la Terre et même d'ailleurs. Donc, dire qu'une graisse pouvait avoir une influence sur la structure et donc sur le fonctionnement du cerveau, c'était une hérésie totale. Et maintenant, on sait très très bien que ceci est parfaitement vrai.
Alors justement, vous parlez de graisse, c'est vrai que nous sommes dans une période, dans une société où on chasse la graisse avec tous ces produits 0%. Dans votre livre La vérité sur les oméga-3, vous avez aussi tout un chapitre où en fait vous dites que c'est de la fantaisie, que ça ne sert à rien. Et qu'est-ce que vous pensez de ces margarines, de ces huiles qui sont enrichies en oméga-3 et qui sont censées justement, normalement, nous apporter un bien-être et nous faire baisser notre mauvais cholestérol au profit du bon?
Alors, il faut voir. Ça me rappelle un petit peu le problème du Canada Dry. Ça en a la couleur, ça en a le goût, mais ça n'en est pas. En l'occurrence, il faut voir cas par cas. Alors, permettez-moi de revenir un instant en arrière en répondant à la question suivante. Où se trouvent ces oméga-3 dans notre alimentation?
Donc, c'est les huiles, comme vous en parliez.
Donc, ce sont les huiles, mais pas uniquement les huiles. En effet, ces oméga-3, pour faire très simple, il y a l'acide alpha-linolénique que l'on trouve dans l'huile de colza et dans l'huile de noix, ainsi que dans certains œufs qui ont été pondus par des poules pondeuses qui ont été nourries avec des graines de lin. C'est l'œuf sauvage, oui. Entre guillemets.
Dans votre chapitre, vous parlez les vrais œufs de vraies poules. Donc ça veut dire que les poules qui font des œufs en batterie, par exemple, ce ne sont pas des bons œufs.
Ce n'est pas vraiment le problème de la batterie. C'est le problème de l'alimentation de la poule. En effet, jusqu'à une date récente, on considérait que dès l'instant que l'œuf avait la forme d'un œuf, qu'il s'appelait un œuf, qu'il avait été pondu par une poule, il se devait d'avoir la composition chimique immuable de l'œuf. On considérait en quelque sorte la poule comme étant un filtre qui permet de produire des œufs de composition constante, quelle que soit l'alimentation qu'on lui donne. On s'est rendu compte il y a quelques années que c'était complètement faux en observant ce qu'il se passait chez les Crétois, le fameux régime Crétois. Ce régime Crétois, pour faire très bref, c'est le régime méditerranéen plus quelque chose, les oméga-3, qu'ils trouvent où ? Bien évidemment dans les poissons et dans les fruits de mer, mais aussi dans la noix, dans l'huile de noix, dans diverses variétés de salades, notamment le pourpier, qui était autrefois courante chez nous et qui malheureusement ont disparu du marché. Et surtout dans les œufs, on s'est rendu compte que, en fait, l'œuf d'une poule crétoise, qui était donc une poule qui absorbait ce qu'elle avait envie de manger, n'avait pas du tout la même composition que l'œuf standard de chez nous. Donc cette vieille manière de voir les choses, qui était la constance de la composition de l'œuf, s'est avérée complètement fausse. Et on s'est rendu compte que dans les œufs de poule crétoise, il y avait 40 fois plus ou 20 fois plus d'oméga-3, selon les références, 20 fois plus d'oméga-3 que dans les œufs dits de batterie de chez nous. Alors, ce n'est pas la batterie qui va changer la valeur nutritionnelle de l'œuf, c'est l'alimentation que l'on donne à la poule.
Alors,
donc, l'œuf n'a pas du tout la composition constante qu'on lui attribue. En fait, selon l'alimentation de l'animal, on peut varier de manière gigantesque la composition nutritionnelle de l'aliment que nous allons consommer. L'œuf est typique, mais vous avez d'autres exemples. C'est valable pour le saindoux. La graisse de porc reflète l'alimentation qui a été donnée aux cochons. Et c'est encore plus vrai pour les poissons. 70% des poissons que nous consommons sont strictement carnivores, ou à peu près strictement carnivores. Cela veut donc dire qu'ils ne contiendront des oméga-3 qu'en proportion directe et strictement linéaire, des oméga-3 qui leur ont été donnés dans leur alimentation.
Alors, justement, vous parliez des poissons qui ont donc une riche teneur en oméga-3, notamment donc les poissons dits gras comme le saumon, la sardine, le maquereau. Et vous précisez d'ailleurs que ce sont des poissons accessibles hein, sur le plan financier. Et justement, vous parliez de la nourriture. Dans un chapitre, vous parliez donc des poissons sauvages et des poissons qui sont élevés hein, en pisciculture. Et le fait que si ce sont des poissons élevés ou des poissons sauvages, la teneur en oméga-3 de la même manière que pour les poules, va être différente.
Tout à fait, c'est ce que je viens d'exprimer. Alors actuellement, il n'y a strictement aucun problème pour la raison simple, c'est que tous les poissons en élevage ou presque sont nourris avec des huiles de poisson qui constituent le sous-produit de ce que l'on appelle des farines animales, c'est-à-dire des protéines. Ça n'est pas cher, donc tous les élevages sont nourris avec.
Mais donc les élevages, en fait, produisent des poissons riches en oméga-3 ?
Actuellement, dans un poisson d'élevage, il y a non seulement autant d'oméga-3 que dans son homologue sauvage, mais il y en a plus. Pourquoi il y en a plus ? Parce que le poisson en élevage bouge moins, il fait moins d'exercice physique, donc il est plus gras, et de ce fait, puisqu'il est plus gras, il va contenir plus d'oméga-3. Pour revenir à votre observation initiale, il est quand même peu courant d'entendre un nutritionniste vous dire
bien
que
sûr.
Plus c'est gras, meilleur c'est. Parce que dans ce monde particulier qui est celui des poissons et des fruits de mer, la teneur en graisse implique une forte teneur en oméga-3 qui se traduit par un bénéfice santé extraordinairement important. Simplement, pour vous donner un exemple que vous pourrez vérifier sur tous les sites sérieux du monde, qu'il s'agisse des instances gouvernementales ou bien des instances d'un certain nombre de professions, les cardiologues par exemple, il est écrit partout « manger du poisson deux fois par semaine, dont au moins une fois du poisson gras, divise par deux le risque de maladie cardiovasculaire ischémique, le risque d'infarctus, pour faire bref, divise par plus que 2 jusqu'à 5 le risque de mort subite à la suite d'un accident cardiovasculaire. Et ceci est la conséquence directe de la présence des oméga-3. Et d'ailleurs, en France, l'huile de chair de poisson constitue un médicament qui est remboursé par la Sécurité sociale. Alors uniquement en prévention secondaire, pour des raisons tout à fait évidentes. En prévention secondaire, ça veut dire quoi ? Cela veut dire qu'après avoir déjà fait un infarctus, vous pouvez manger des oméga-3 aux frais de la Sécurité sociale. Si tout le monde devait faire ça, aux frais de la Sécurité sociale, cette pauvre institution qui se porte déjà fort mal s'en verrait fort affectée. Quoi qu'il en soit, il nous faut manger plus de deux fois par semaine des poissons et des fruits de mer. Mais ça me ramène à votre question initiale, c'était où sont les oméga-3 ? L'oméga-3, chef de la famille, c'est l'huile de colza, l'huile de noix. À partir de demain, celles et ceux qui nous ont écoutés doivent substituer, je dis bien substituer, l'une des deux cuillères à soupe d'huile d'assaisonnement,
oui,
d'huile végétale qu'il utilise, par soit de l'huile de colza, soit de l'huile de noix. Nous consommons en France, en moyenne, 2 cuillères à soupe quotidiennement. Il faut maintenant que l'une des deux soit soit de l'huile de colza, soit de l'huile de noix. Et puis les autres oméga-3 dont nous avons tout aussi besoin, on dit qu'ils sont conditionnellement indispensables. C'est-à-dire que, en théorie, nous sommes capables de les fabriquer, mais manque de chance, quand on n'est pas jeune, en pleine santé, en santé florissante, on ne sait pas bien les fabriquer, donc de toute manière, il nous faut les trouver dans notre alimentation, et ce sont ceux qui sont présents essentiellement dans les poissons et les fruits de mer, dont les acronymes, nous les avons évoqués tout à l'heure, c'est EPA et DHA.
Alors c'est 2 grammes maximum par jour, des apports recommandés en oméga-3 ?
Alors, on ne peut pas parler d'apport recommandé en oméga-3 d'une manière générale. Revenons un instant sur les oméga-3, dont je disais qu'ils étaient 4 comme les 3 mousquetaires, pour vous rappeler que, en fait, il n'y en a que 2 qui bénéficient d'apports nutritionnels conseillés, car ils sont très intéressants, indispensables sur le plan de la nutrition. C'est l'acide alpha-linolénique, le chef de la famille. Les hommes doivent en consommer 2 grammes par jour, les femmes doivent en consommer 1,6 grammes par jour. Il nous en manque à chacun à peu près 1 gramme. Ce gramme, nous allons le trouver dans cette cuillère à soupe d'huile de colza ou d'huile de noix quotidienne. Les autres oméga-3, parmi les autres oméga-3, il n'y a que le DHA, l'acide cervonique, qui bénéficie d'apports nutritionnels conseillés. Les recommandations, c'est 120 mg par jour pour les hommes, 100 mg par jour pour les femmes, et pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, 250 mg par jour. On a coutume de dire qu'une femme enceinte ne doit certainement pas manger 2 fois plus, mais elle doit manger 2 fois mieux. Eh bien, ceci est complètement faux pour 3 substances. Ce sont les oméga-3, c'est plus de 2 fois plus. C'est le fer, plus que doublé pendant le dernier trimestre de la grossesse, et c'est la vitamine D qui doit être doublée pendant toute la grossesse. Les oméga-3, le fer pour une certaine mesure, et la vitamine D, où sont-ils ? Dans les poissons et les fruits de mer. Donc nous sommes revenus au point de départ. Il faut manger beaucoup plus de poissons et de fruits de mer que nous n'en consommons actuellement.
Et nous parlerons bien sûr des effets positifs dans la seconde partie qui va arriver dans quelques instants sur les effets, et notamment donc sur la mère et son jeune enfant, ou même la future maman, donc la femme enceinte. Juste auparavant, juste pour vous poser la dernière question avant d'en venir à notre pause, sur l'huile de chair de poisson. Est-ce que finalement il faudrait parvenir à notre vieille huile de foie de morue ? Est-ce que ça c'était très bénéfique ou est-ce que c'était pour le coup des effets, on va dire, psychologiques, on va dire ?
Non, oh là là ! L'huile de foie de morue mérite le plus grand respect. C'est une invention fantastique dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité, pendant des millénaires, on a mangé pour survivre. Depuis quelques décennies seulement, on s'est rendu compte qu'on pouvait éviter la maladie. Et depuis peu, on sait que l'alimentation nous assure une certaine qualité de la vie. C'est d'ailleurs mon travail de chercheur et mon premier livre, publié maintenant il y a 16 ans, qui s'appelait « La diététique du cerveau » chez Odile Jacob, qui était un livre théorique qui est maintenant en version, j'allais dire pratique, qui s'appelle « La nouvelle diététique du cerveau » que vous avez évoqué tout à l'heure et je vous en remercie, qui vous dit ce qu'il faut manger pour le cerveau de manière à le construire d'abord et ensuite à le maintenir en forme le plus longtemps possible.
L'huile de foie de morue, si on en a, ne pas hésiter.
Alors, non, attention, il faut faire attention. Je disais donc que c'est une étape extraordinairement importante dans l'histoire de l'humanité, puisque c'est l'une des premières fois où l'espèce humaine a compris que dans le succès d'année de l'aliment, il y avait quelque chose qui était positif pour la santé. Et de quoi s'agissait-il ? De la vision, car elle est pleine de vitamine A, de l'ossification. Quoi de plus important que d'assurer une bonne ossification ? Il ne sert pas à grand-chose d'absorber du calcium si dans le même temps, on n'absorbe pas ce qui permet l'absorption du calcium au niveau intestinal et ensuite la fixation du même calcium au niveau osseux, c'est-à-dire la vitamine D. Donc, l'huile de foie de morue a été perçue comme nos ancêtres, comme étant quelque chose absolument génial, qui permettait de mieux voir, et ensuite d'avoir une ossification meilleure. L'huile de foie de morue apporte aussi des oméga-3. Mais, pour ce qui est des oméga-3, il ne faut pas, surtout pas, se focaliser sur l'huile de foie de morue, car cela peut amener à des excès de consommation de vitamine D et de vitamine A, qui, à forte dose, s'avèrent toxiques. N'oublions pas, on le sait depuis Paracelse, depuis 6 siècles, qui est l'alchimiste qui nous a fait quelque part passer à la chimie, il écrivait déjà « c'est la dose qui fait le poison, tout est bon, tout est poison, donc il faut faire très attention. Il faut combler les manques en termes de nutrition, mais il ne faut pas se livrer à une sorte d'obnubilation psychiatrique par rapport à un nutriment qui risque d'amener une certaine toxicologie. Pour ne pas dire une toxicologie certaine pour certaines substances.
Alors, je vous propose de marquer une courte pause, Jean-Marie Bourg, et on se retrouve tout de suite après pour évoquer donc la deuxième partie de notre émission sur la femme enceinte et son futur enfant et les effets des oméga-3 sur le quotient intellectuel. A tout de suite.
Je croque un oignon, parfois une gousse d'ail, parfois même un champignon est une victuaille. Il faut faire avec, ce n'est pas copieux, car ces oraisons du prêtre n'en voient pas la queue. Le vent chasse les nuages, c'est providentiel. Un grand disque de fromage tourne dans le ciel. La femme monte à la tête, j'avale mon chapeau, un bouton de ma jaquette et un pauvre mulot. Je ne suis pas dans mon assiette, je vais rendre l'âme quand je pense à mes à mon croque, madame, ça fait trop longtemps que ça dure. Je m'allonge un peu.
Vous écoutez Canal Académie. Suite de notre émission en compagnie du docteur Jean-Marie Bourg, membre de l'Académie nationale de médecine. Avec vous, nous parlons donc des oméga-3, puisque c'est votre sujet, hein, votre dada depuis 25 ans, notamment les oméga-3 et les effets sur le cerveau. Alors justement, intéressons-nous au cerveau, et notamment sur une étude, vous vous apprêtez à publier un article dans les Annales pharmaceutiques sur une future mère, hein, donc une femme enceinte, et sa consommation de poissons, sa forte consommation en poissons, qui, à terme, lorsque son enfant naît, pourrait en tout cas avoir des effets bénéfiques sur le quotient intellectuel de son futur enfant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et puis après sur les risques aussi peut-être à publier cette information?
Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est une réunion qui a été organisée par l'Académie de pharmacie et qui portait sur les compléments alimentaires et ce que l'on peut en dire, ce que l'on doit en dire et les excès concernant les allégations qui tournent autour des compléments alimentaires. Donc, j'étais là pour illustrer tout ce qu'il y a de sérieux, mais aussi parfois de fantaisiste, pour ce qui concerne les oméga-3. Donc, c'est une revue de la littérature scientifique et médicale. Et j'ai effectivement cité cette étude, qui n'est pas du tout la mienne, qui est la suivante, qui vient d'être publiée. Cette étude montre que le quotient intellectuel des enfants à 8 ans est en proportion de la quantité de poissons, notamment gras, que leur maman a mangé pendant sa grossesse.
Et même avant la grossesse, je crois.
Alors, ce n'est pas uniquement le facteur. Ce n'est pas uniquement le facteur qui va déterminer le QI. Bien évidemment, dans cette étude, il y a une quinzaine de facteurs que l'on dit confondants, c'est-à-dire interférents, qui ont été éliminés pour arriver à ce résultat. L'affection maternelle joue un rôle très important, les facteurs sociaux, socio-économiques, les facteurs culturels jouent des importances qui sont considérables. Il n'en reste pas moins vrai que l'alimentation joue son rôle, et il est parfaitement clair maintenant que il y a une relation entre la quantité d'oméga-3 présent dans l'alimentation, la construction du cerveau et le fonctionnement ultérieur du cerveau. Alors, pour faire bref, il y a en fait deux études, mais qui reprennent d'autres études qui avaient déjà été publiées précédemment, qui montrent que et la grossesse et l'allaitement ont une importance sur le développement cérébral de l'enfant. Cette première étude, qui ne montrait pas d'ailleurs directement l'effet de la consommation de poissons pendant la grossesse sur le quotient intellectuel à l'âge de 8 ans,
oui,
il montrait quelque chose qui est une image en miroir, c'est-à-dire que moins les femmes consomment de poissons pendant leur grossesse, plus elles auront la malchance d'avoir des enfants de quotient intellectuel bas. Inversement, plus elles consomment de poissons pendant leur grossesse, plus elles auront la chance d'avoir des enfants de quotient intellectuel élevé. Et puis d'autres études ont montré que si l'on donne à des femmes qui allaitent des oméga-3, on observe que le coefficient de neurodéveloppement, bien évidemment, pour un nourrisson, on ne peut pas parler de quotient intellectuel, ce coefficient de neurodéveloppement s'en trouve majoré, il est meilleur.
Parce que le lait maternel, à la base, est riche en oméga-3, est riche en acides gras, je suppose.
Bien évidemment, et c'est d'ailleurs l'observation initiale qui m'a fait m'intéresser, il y a maintenant 25 ans, à ce sujet-là. Elle était la suivante. Premièrement, je travaillais sur la construction du cerveau, sur les cultures de cellules, et j'ai eu la chance de découvrir qu'en rajoutant des oméga-3 dans ces cultures de cellules, alors les neurones qui étaient à l'état quiescent, ne faisaient pas grand-chose, se mettaient à croître, à fabriquer des terminaisons nerveuses, qui elles-mêmes étaient capables de fabriquer des neuromédiateurs, et surtout pour ceux qui m'intéressaient, que les oligodendrocytes qui fabriquent cette gaine de myéline, qui est malheureusement affectée dans une maladie qui est la sclérose en plaques, et c'est sur cette maladie-là que je travaillais à l'époque à la Salpêtrière, eh bien ces oligodendrocytes commencent à devenir fonctionnels, c'est-à-dire à fabriquer de la gaine de myéline autour des axones qui eux-mêmes se mettaient, peut-on dire, en route. Donc, je m'intéressais aux oméga-3 et à ce moment-là, j'ai mis bout à bout des observations. Premièrement, le cerveau est l'organe le plus gras de notre corps. Il est le plus riche en lipides, presque autant que le tissu adipeux, avec une différence majeure, c'est que dans le tissu adipeux, nous avons une réserve énergétique dont nous voudrions d'ailleurs bien souvent nous débarrasser, alors que dans le cerveau, il ne s'agit que de structure, d'architecture, de membrane biologique. Première observation. Deuxième observation, dans le lait de femme, contrairement au lait de vache, par exemple, et des autres espèces, pardonnez-moi mesdames, ravalé au niveau de l'espèce, mais c'est le terme habituel. Dans ce lait de femme, il y a énormément d'oméga-3, alors que dans les autres laits, il n'y en a pratiquement pas. Et avec une vision finaliste des choses, c'est facile à comprendre. Le cerveau du nouveau-né se développe de manière gigantesque. Son poids est multiplié par 2 à 3 dans les mois qui suivent la naissance. Cela veut donc dire que, puisque le cerveau est l'organe le plus gras, qu'il y a des besoins gigantesques en oméga-3 qui doivent être pourvus par le biais du lait maternel. En revanche, le veau à la naissance a pratiquement le cerveau de l'adulte, il n'a pas besoin d'oméga-3 puisqu'il ne va pas croître. Et surtout à l'époque, dans les formules lactées pour nourrissons,
justement,
il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis posé cette question qui était la suivante. Est-ce que ce déficit en oméga-3 dans les formules lactées pour nourrissons ne pouvait pas avoir une influence sur la construction du cerveau et par voie de conséquence sur son fonctionnement? Donc bien évidemment, j'ai fait presque exclusivement de l'expérimentation animale. Il n'était pas question d'aller prélever des fragments de cerveau de nourrissons parfaitement sains pour y vérifier les effets de leur alimentation. Une expérimentation animale qui a permis de montrer que quand il y avait déficit en oméga-3, eh bien, le cerveau se trouvait affecté dans sa construction, dans sa composition, dans son efficacité. Les organes neurosensoriels étaient affectés. La vision un peu réduite, l'audition un peu réduite et les performances d'apprentissage, certaines d'entre elles, s'en trouvaient aussi un peu affectées. Il ne s'agissait pas d'animaux parfaitement abrutis, permettez-moi cette expression, par rapport à d'autres qui l'étaient moins, mais il y avait néanmoins une différence qui était plus que subtile. Le déficit en oméga-3 avait une influence sur la structure du cerveau et par voie de conséquence sur son fonctionnement. Nous avions démontré que la vision était affectée et c'est par ce biais que les pédiatres sont rentrés dans le sujet, car il est facile pour un nouveau-né de faire une mesure d'acuité visuelle, voire un électrorétinogramme, et ils ont retrouvé la même chose que ce qui avait été trouvé sur les modèles animaux. Et donc, à partir de là, ils se sont dit, mais si c'est vrai pour la vision, c'est vrai pour tout le reste. Et depuis maintenant, tous les laits, toutes les formules lactées pour nourrissons contiennent des oméga-3.
Et justement, dans votre livre, vous le précisez que jusque dans les années 80, il me semble, ces laits, en fait, contenaient des huiles, mais de l'huile de tournesol, et maintenant contiennent des huiles de colza.
Tout à fait.
Pour contenir donc des oméga-3.
Exactement. Il s'agit simplement de remplacer une huile quelconque qui était choisi en fonction du cours du marché, du coût économique du marché, par de l'huile de colza qui est la seule à apporter des quantités notables d'oméga-3.
Alors, nous allons faire un petit jeu, si on peut dire ça, sur le thème vrai ou faux. Les oméga-3 ont-ils des effets sur... Alors, les oméga-3 ont-ils des effets positifs sur la libido?
Vous voulez que nous lancions dans une émission qui porte sur la gaudriole et non plus sur la science?
Écoutez, alors, c'était un sujet de votre livre.
Je vais vous donner l'argumentation puissamment scientifique qui préside à cette affirmation. Les deux endroits du corps humain où il y a le plus d'oméga-3, c'est le cerveau et les testicules. Et d'aucuns pensent que dès l'instant qu'il y a suffisamment d'oméga-3 et dans les testicules et dans le cerveau, il y a un fonctionnement plus harmonieux des deux extrémités de la colonne vertébrale. Vous en conviendrez, c'est quand même un peu léger. Passons au sujet suivant.
Alors, est-ce que ça joue sur la baisse de la tension artérielle?
Oui. Alors, ceci est un sujet extraordinairement important qui touche d'une manière générale toutes les membranes biologiques. Dès l'instant qu'il y a des oméga-3 dans une membrane biologique, qu'il s'agit par exemple de la des membranes de nos artères, ces membranes s'en trouvent plus souples, se déforment plus facilement. Et par voie de conséquence, puisqu'elles se déforment plus facilement, la tension artérielle est abaissée. Mais c'est aussi vrai pour le contenu des artères. Si je prends comme exemple les hématies, les globules rouges, elles s'en trouvent plus souples et donc elles pourront mieux s'insérer dans les artères les plus petites de notre organisme, notamment celles du cerveau. Donc notre organisme se trouve bénéficiaire et du fait de la souplesse des artères qui se déforment mieux pour laisser passer les hématies et du fait que les hématies se déforment elles aussi mieux et donc vont pouvoir aller apporter l'oxygène là où il y en a besoin.
Alors si on poursuit notre série d'informations, est-ce que les oméga-3 jouent contre la dépression?
Alors, il s'agit de la vraie dépression, telle que définie par les psychiatres. C'est pas « je ne vois plus la vie en rose, je broie du noir, donc je prends mes trois capsules et tout d'un coup, ça va être Babylone et tout va bien se faire et tout le monde va bien se porter ». C'est un peu cette traduction active qui a été faite entre le « mood », qui est le mot anglais qui se traduit chez nous par « humeur ». En France, quand on parle d'humeur, c'est le bon poil et le mauvais poil, oui, pardonnez-moi cette rapidité d'expression. Chez les anglo-saxons, la schizophrénie est une mood disease, la vraie dépression est une mood disease. Et il est vrai qu'il y a des études qui montrent que la consommation de poissons, notamment gras, pourrait diminuer le risque de démence, de vraie dépression. Et la question est posée pour ce qui concerne la schizophrénie. Donc pour le moment, un certain nombre d'études ont clairement montré que absorber des oméga-3 réduit le risque de dépression. Et pour revenir à ce que nous disions précédemment, notamment de dépression post-partum après l'accouchement,
voilà,
c'est
baby
tout
blues,
bénéfice pour la maman.
Blues.
Elle consomme des oméga-3, sa grossesse se passe mieux, elle a un risque d'éclampsie, des histoires d'hypertension moins importants. Son enfant va s'en trouver, bien évidemment, mieux au niveau du fonctionnement de son cerveau. Et pour elle, cela probablement diminuera le risque de dépression.
Mais c'est certainement associé une consommation d'oméga-3 à un traitement associé. Par exemple, pour les gens qui sont vraiment touchés de dépression, qui prennent des antidépresseurs ou des anxiolytiques, je suppose qu'on ne va pas leur prescrire que de manger du poisson et de l'huile de noix.
Alors, ceci est un vaste problème qui est précisément le cœur du débat. Nous n'en sommes actuellement qu'au niveau des études d'observation écologique, épidémiologique. On observe que les populations de femmes qui consomment le plus de poissons, ce sont celles qui feront le moins de dépression. Tout ceci est indépendamment du traitement. On est actuellement dans la phase de traitement. Il y a quelques essais qui ont été réalisés. La plupart d'entre eux sont d'ailleurs négatifs pour le moment. Quelques-uns sont positifs, mais les choses ne sont pas du tout claires. Il est tout à fait évident qu'en termes de traitement, il faut penser aussi aux médicaments. Les oméga-3 ne sont certainement pas la panacée, loin s'en faut.
D'autres maladies qui sont tout aussi importantes que la dépression et qui touchent en tout cas beaucoup de monde, les cancers par exemple, notamment le cancer du sein, et puis la maladie de Crohn qui touche finalement pas mal de personnes, qui est une maladie taboue parce que ça touche les intestins, qui aurait, on utilise le conditionnel aussi, un effet, donc les oméga-3 qui aurait un effet en tout cas associé à un traitement qui pourrait diminuer les rechutes ou en tout cas aurait un effet bénéfique dans le traitement de ces maladies.
Alors là, pour le moment, on est dans une situation, j'allais dire, qui est un petit peu floue dans la mesure où de quoi s'agit-il? En fait, parmi ces oméga-3, il y en a un dont j'ai dit tout à l'heure qu'il n'avait pas d'apport nutritionnel conseillé, qui s'appelle l'EPA. Oui. Et celui-ci se retrouve dans les capsules qui sont remboursées par la Sécurité sociale, évidemment. Il a des vertus anti-inflammatoires. Et de ce fait, puisqu'il a des vertus anti-inflammatoires parfaitement nettes et parfaitement reconnues, notamment sur le plan cardiovasculaire, on peut retrouver le bénéfice de sa consommation dans d'autres pathologies qui ont une composante inflammatoire. C'est précisément le cas de nombre de cancers. C'est notamment le cas de la maladie de Crohn, des maladies intestinale. C'est aussi le cas de certaines maladies articulaires, l'arthrite, voire l'arthrose. C'est aussi le cas de certaines maladies dermatologiques. Il s'agit du psoriasis. Pour le moment, la situation, elle est extrêmement floue. En effet, pour faire très bref, pour ce qui concerne de la prévention cardiovasculaire, il semble qu'il n'y ait aucun effet de la latitude et de la longitude de la culture et du milieu socio-économique. En d'autres termes, où que l'on vive, le bénéfice est au rendez-vous. Il n'y a pas d'effet de la génétique personnelle sur l'efficacité des oméga-3, ou peu d'effet de la génétique personnelle des oméga-3 sur le plan de la prévention cardiovasculaire. Dans les autres pathologies, il y a de toute évidence une interférence très importante avec la génétique de la population et la génétique de la personne, ce qui fait que les résultats ne sont pas parfaitement clairs. En termes de cancer, il est maintenant bien démontré, notamment à l'occasion d'une étude européenne qui a porté sur un grand nombre de pays européens, que la consommation de poissons va de pair avec la diminution de risque de cancer colorectal. Entre celles et ceux qui mangent peu de poissons et celles et ceux qui en mangent beaucoup, la différence est de 40%, donc ça vaut vraiment la peine d'en consommer. Et c'est d'ailleurs pareil pour la maladie d'Alzheimer. Dans une période donnée, sur une population donnée d'un âge donné, la consommation de poissons gras divise par deux le risque de faire cette redoutable démence, y compris la démence d'Alzheimer.
Finalement, vous nous dites que les gens qui sont Alzheimer, c'est parce que peut-être ils ne mangent pas assez de poisson, mais manger du poisson n'est pas forcément une culture alimentaire pour tout le monde. Et puis, malheureusement, le poisson, ça reste quand même plus cher que la viande. Donc, culturellement, on va manger plus de viande que de poisson, en tout cas en France. Donc est-ce que finalement, avoir la maladie d'Alzheimer, c'est parce qu'on a une alimentation qui correspond à notre niveau social ?
Alors vous soulevez un problème qui est extrêmement délicat, qui est un facteur qui rend les choses et les études beaucoup plus difficiles. En effet, asymptomatologie clinique égale, quelqu'un qui bénéficie d'un niveau socio-culturel élevé aura perdu beaucoup plus de neurones qu'une personne qui aura un niveau socio-culturel moins élevé. Donc le fait de faire fonctionner le cerveau, qui se trouve par définition en fonctionnement optimal dès l'instant que le niveau socio-culturel s'élève, faire fonctionner le cerveau préserve dans une certaine mesure de cette maladie. Contrairement à une pile célèbre, le cerveau ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Donc le numéro 1, c'est faire fonctionner le cerveau, faire fonctionner les neurones, faire fonctionner toutes ces structures cérébrales, faire de l'exercice physique qui permet d'oxygéner le cerveau. Il y a un meilleur vieillissement cognitif quand on fait de l'exercice physique. Notre cerveau représente, adulte, 2% du poids du corps, il consomme plus de 20% de l'oxygène que nous respirons. Donc l'exercice physique permet une meilleure oxygénation des organes, dont le cerveau, donc un vieillissement qui s'en trouve amélioré. Donc le facteur socio-économique intervient, et il intervient d'autant plus que dès l'instant que le niveau socio-culturel est élevé, on mange plus de poissons. Donc on se trouve doublement préservé. Alors le problème, c'est de faire en sorte que tout le monde mange du poisson et des fruits de mer.
Manger du surimi, pourquoi, par exemple, est-ce que ça a le même effet que de manger du poisson tel que du saumon ou du maquereau ou du hareng, par exemple ?
Alors, avant de répondre à votre surimi, je voudrais remonter un tout petit peu en arrière pour rappeler que le gouvernement, depuis maintenant plusieurs années, a créé ce qui s'appelle le PNNS, le Programme National Nutrition Santé, dont l'observation et les motifs sont extraordinairement simples. En termes de coûts individuels, de coûts sociaux et de coûts économiques de santé, il y a un certain nombre de pathologies qui pourraient parfaitement être évitées ou retarder si l'alimentation était rééquilibrée. Le poisson et les fruits de mer représentent l'exemple le plus fantastique, puisque manger du poisson deux fois par semaine divise par deux le risque d'infarctus. Donc, nombre de personnes qui décèdent prématurément d'un infarctus, alors on pense à l'infarctus du cœur, mais il ne faut pas oublier celui du cerveau, qui est la fameuse attaque, qui est quand même une source d'invalidité, de pathologie absolument gigantesque dans les pays dits occidentaux, dans notre pays en particulier, ces pathologies pourraient largement être évitées, sinon retardées, en mangeant mieux. Alors manger mieux, cela veut dire manger quoi ? Manger des poissons et des fruits de mer. Le surimi, ce n'est pas que du poisson. Actuellement, les surimis sont faits notamment avec du poisson et aussi de l'huile de colza, donc c'est bien. Mais il vaut mieux manger de manière diversifiée. Nous avons la chance d'avoir une multitude d'espèces de poissons et de fruits de mer à notre disposition, avec une gastronomie qui est la nôtre, qui est absolument fantastique, qui nous permet de trouver tout pour tout le monde, avec tous les goûts possibles. Donc le PNNS insiste, il faut manger des poissons et des fruits de mer pour assurer la prévention d'un certain nombre de pathologies et aussi assurer la croissance du cerveau, la préservation du cerveau et son meilleur fonctionnement le plus longtemps possible.
Alors est-ce que cela signifie que les Japonais qui mangent beaucoup de poissons, ou même les Inuits par exemple, ont une vie, vivent longtemps et en bonne santé très longtemps ? Est-ce que ça peut se voir ?
Ça c'est. Alors là vous posez la question pertinente, vous avez à la fois l'exemple et le contre-exemple. L'exemple, les Inuits du Nunavik, c'est le nord du Canada, mais en fait, les premières études ont été faites chez les Esquimaux du Groenland. La première observation était la suivante. Ils ignorent le cardiologue. Pourquoi ? Parce qu'ils mangent quoi ? Du poisson comme en gras qui contient quoi ? Des oméga-3. Voilà l'histoire des oméga-3 qui a démarré il y a maintenant 30 ans. C'était les oméga-3 qui étaient responsables de ce bénéfice. On s'est dit, c'est bien, chez les Esquimaux, on va regarder ailleurs. Les Inuits, récemment, chez les populations qui vivent dans le nord de la Russie, en Sibérie, on a trouvé la même chose chez les Japonais. Mais là, les choses sont tout à fait amusantes, si l'on peut dire d'ailleurs, c'est que le Japonais qui vit sur la côte bénéficie de cet effet consommation d'oméga-3. En revanche, celui qui vit 150 km à l'intérieur des terres, ne consommant que très peu de poissons, n'a pas du tout ce bénéfice-là. Donc sur une même population qui avait globalement une génétique similaire, on observait cette différence de consommation des oméga-3. Donc effectivement, les Japonais, notamment ceux de certaines îles, qui ont une vie frugale, saine, qui font de l'exercice physique, qui mangent énormément de poissons, vivent beaucoup plus longtemps que les autres. C'est-à-dire qu'il y a un maximum de gens qui arrivent à un âge avancé. Pour arriver à cela, il faut premièrement résister à la naissance, ensuite résister aux maladies, et ensuite résister à toutes ces pathologies que l'on appelle curieusement des maladies de civilisation, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, qui tuent, qui déciment, et le mot est vrai, qui déciment vers la cinquantaine ou vers la soixantaine. Alors concernant les Esquimaux, malheureusement, vous avez le contre-exemple. Leur espérance de vie est de l'ordre de 55 ans, ou était de l'ordre de 55 ans. Et pourquoi ceci ? Alors, non pas parce qu'ils se bagarrent sur la banquise à coups de pagaie, que la mer est froide et que quand leur canot chavire, c'est peu favorable à la santé. Non, la raison, c'est qu'ils représentent l'exemple de l'excès qui amène à une pathologie. Ils sont morts prématurément d'hémorragie. Car la surconsommation, ils consomment beaucoup trop, beaucoup trop d'oméga 3. C'est l'excès qui fait le poison. Mais restons prudents dans nos évaluations. Pour souffrir de cette modeste espérance de vie, il faut consommer au moins 800 grammes de poisson gras par jour, plus de la viande de phoque qui apporte énormément d'oméga 3, plus de la viande d'ours. Quand l'ours n'avait pas mangé l'homme, c'est l'homme qui mangeait l'ours qui lui apportait des oméga 3. Donc c'est plus d'un kilo par jour de poisson gras. Nous, tout poisson confondu, nous en sommes à peu près 100 et quelques grammes par semaine. Donc nous sommes très, très, très loin de la dose et du risque toxicologique.
Alors on quitte les Esquimaux et on marque une deuxième courte pause et on se retrouve tout de suite après pour parler peut-être plus en détail de ces risques de surconsommation d'oméga 3. Apparemment, qui n'est pas encore, on a encore quelques temps avant d'avoir une surconsommation, mais on parlera un peu des risques et puis également de vos contradicteurs, Jean-Marie Bourg, puisque vous avez quelques contradicteurs.
Comment cela peut-il se faire ?
Il a eu pour ami et modèle Pablo Picasso et Jean Cocteau. Il s'est passionné pour la corrida, les nus, les gitans et les étangs. Il est le premier photographe à entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Lucien Clergue est venu dans notre studio pour retracer son parcours dans une émission en habit vert. Cette émission est disponible sur Canal Académie par le moteur de recherche en tapant Clergue ou en passant par la liste des académiciens.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Jean-Marie Bourg, neurotoxicologue, membre de l'Académie nationale de médecine, avec qui nous parlons des oméga-3, puisque c'est votre sujet hein, depuis 25 ans, Jean-Marie Bourg.
Pardonnez-moi d'être jeune depuis beaucoup plus longtemps que vous, je le regrette.
Donc sur la vérité sur les oméga-3, qui est donc notre livre de référence et qui est donc écrit par vous, hein, Jean-Marie Bourg, publié aux éditions d'Ile Jacob. Dans cette troisième partie, effectivement, je voulais aborder les risques des oméga-3, mais vous me le disiez pendant cette pause, c'est qu'en fait, il n'y a pas tellement de risques. Mis à part les risques d'hémorragie chez les Esquimaux.
C'est les risques d'hémorragie qui sont inhérents à un excès très très important de consommation. Ce risque pourrait exister chez celles et ceux qui s'adonnent de manière forcenée à la consommation de capsules et... Là, effectivement, surtout s'ils consomment simultanément soit de l'aspirine, soit des anticoagulants, effectivement, le risque pourrait exister.
Alors, au début de cette émission, je parlais des margarines. Alors, les margarines qui sont enrichies, qui ont une forte proportion d'oméga-3, que faut-il en penser, Jean-Marie Bourg ?
Il faut en penser beaucoup de bien, à condition qu'il ne s'agisse pas de notre... pâté d'alouette d'autrefois qui contenait un peu de cheval, moitié-moitié, un cheval, une alouette. Et là, parfois, c'est le cas. Il faut savoir lire sur les étiquettes.
Donc vous invitez les auditeurs en fait à lire derrière.
Donc il faut lire sur l'étiquette et il faut vérifier qu'il n'y a pas une petite pincée d'huile de colza et un super tanker d'un autre corps gras ou d'une autre huile végétale. Il faut qu'il y en ait suffisamment. Et d'ailleurs, celui qui vend ce produit, quand il en a la fierté justifiée, il met en pourcentage des apports journaliers recommandés, ou plutôt en l'occurrence des apports nutritionnels conseillés. Donc quand vous voyez que dans une margarine, dans une fraction acceptable en termes de consommation, c'est-à-dire 5 grammes, 10 grammes, il ne s'agit pas de consommer toute la plaquette d'un coup pour trouver 10% de ce dont nous avons besoin. Donc quand vous voyez que dans un volume acceptable, vous trouvez 10, 20, 30% de vos besoins quotidiens, bien évidemment, l'effet est intéressant et la margarine est efficace.
Alors pourquoi finalement ces margarines, hein, on va pas dire, bien sûr on ne va pas citer de marque, pourquoi ces margarines apparaissent depuis très récemment, vu qu'on connaît maintenant les effets des oméga-3 depuis très longtemps, sur les effets positifs sur notre corps?
Alors les effets positifs des oméga-3 sont connus maintenant, et pour la partie de construction du cerveau depuis 25-30 ans, c'est mon travail de chercheur, vous manquiez de courtoisie en rappelant tout à l'heure à mon âge, et sur le plan cardiovasculaire depuis plus de 30 ans, mais entre une observation et la mise en pratique, il faut quand même plusieurs décennies, puisque vous avez une observation qui doit être confirmée, reconfirmée, suivie d'études d'intervention expérimentale ensuite chez l'homme. Donc il faut beaucoup de temps, et maintenant les choses sont parfaitement claires sur le plan cardiovasculaire. Donc il est normal que depuis une décennie, on se retrouve avec nombre de produits qui sont enrichis en oméga-3. Alors le mot enrichi peut être lui-même sujet à exégèse, parce que une margarine enrichie aux oméga-3, cela veut dire qu'elle contient des oméga-3, mais elle n'est pas littéralement enrichie, puisqu'elle n'est simplement que faite avec, y compris, de l'huile de colza qui va les apporter. Donc ce n'est pas un processus d'enrichissement, c'est un processus de fabrication qui introduit et qui prend en compte l'aliment qui en apporte le plus, l'huile de colza ou bien du poisson pour d'autres produits alimentaires.
Alors quand on parle de graisse, on pense bien sûr au cholestérol, au bon et au mauvais cholestérol. Alors peut-être que vous vouliez préciser justement la confusion que l'on faisait, et moi-même je pense que je fais la confusion, dans le rôle des oméga-3 avec ce cholestérol.
Non, alors c'est quelque chose qui est un raccourci trop rapide, qui est souvent fait. On dit que les oméga-3 abaissent le cholestérol. La réponse, elle est non. Peut-être, et même d'ailleurs sûrement, de manière indirecte. En fait, l'effet des oméga-3, qui justifie d'ailleurs leurs inscriptions au dictionnaire vital des médicaments, c'est qu'ils sont hypotriglycéridémiants. Nous avons des graisses dans notre sang que l'on appelle des triglycérides, que les femmes connaissent très bien dès l'instant qu'elles sont sous pilule. Il faut les doser. Mm-hmm. Ces triglycérides représentent en eux-mêmes et tout seuls un facteur de risque cardiovasculaire, à côté de tous les autres facteurs de risque qui sont le cholestérol, la sédentarité, le tabagisme et d'autres chose encore. Donc les oméga-3 agissent sur les triglycérides qu'ils abaissent, c'est très bien sur le plan cardiovasculaire. Les triglycérides étant abaissés, les transporteurs du cholestérol s'en trouvent eux-mêmes abaissés par voie de conséquence et de manière très indirecte le cholestérol. Mais les oméga-3 n'agissent pas en première intention sur le cholestérol, contrairement à ce qui est souvent écrit.
Bien sûr, dans les publicités ou même à la télé ou même à la radio, on entend que en prenant un produit enrichi en oméga-3, ça va contribuer à baisser votre mauvais cholestérol. Notamment aussi dans les produits laitiers, les petits yaourts.
Là aussi, cela dépend de la quantité. Vous citez les yaourts. Non, on ne peut pas être critique. Dès l'instant que dans ces yaourts, le corps gras a été enlevé pour être remplacé par de l'huile de colza, à ce moment-là, le bénéfice est au rendez-vous. C'est au consommateur de savoir ce qu'il veut manger après.
Alors, dans cette toute dernière partie de l'émission, on va parler de vous contradicteurs, puisque vous en avez quand même quelques-uns. On peut en parler, d'ailleurs vous n'avez aucun problème avec ça. Si l'on fait référence à plusieurs articles que l'on trouve sur Internet, effectivement, un journaliste met en avant que vous parlez des œufs, on en a parlé dans cette émission. Vous parlez également de la charcuterie, qui n'est pas si mauvaise que ça pour la santé, et également du pain et des huîtres. Et parallèlement, effectivement, vous êtes président, ou vous l'étiez, président du Centre d'information sur les charcuteries, membre du comité scientifique du pain, président du comité scientifique de l'huître, président du comité scientifique pour la promotion de l'œuf. Alors est-ce que effectivement, en ayant ces informations en tête, ça ne jette pas le discrédit sur votre discours sur les bienfaits de la charcuterie, de l'œuf et des huîtres?
Alors, vous le discrédit. Non, ça fait partie des misérables critiques qui sont faites histoire de faire parler de quelqu'un ou de se faire parler soi-même. Je ne pense pas que l'on accuse le médecin urgentiste qui met un masque à oxygène sur le nez d'un accidenté d'être grassement payé par une industrie qui va vendre ses bouteilles d'eau, ses bouteilles qui contiennent de l'oxygène. Cela relève du même procès d'intention. Je parle des aliments en accord avec le PNNS, et dès l'instant que je dis du bien de tel ou tel aliment, ce n'est pas obligatoirement parce que je suis payé par ces industriels, je me mets en accord avec ce que l'on sait de la nutrition. Vous observerez deux choses d'ailleurs, c'est que premièrement, vous ne m'avez jamais vu dans aucune boisson sucrée, dans aucun soda. Pourtant, les propositions furent fort alléchantes. Vous ne m'avez jamais vu dans nombre de ces produits alimentaires qui servent de snack. Parlons par exemple d'un certain nombre de barres chocolatées, en mettant des guillemets autour du mot barres chocolatées, car c'est simplifié de manière outrancière. Donc, quand je dis qu'il faut respirer, absorber de l'oxygène, ce n'est pas me prostituer dans son foie. Et d'ailleurs, ces accusateurs m'ont rendu généralement le plus grand service, car on m'a dit, mais effectivement, vous dites du bien des aliments dont on a besoin de savoir qu'ils font du bien, et on ne vous retrouve pas dans ces produits dont on sait qu'ils sont modérément recommandables en consommation trop importante dans notre alimentation. Et puis enfin, un dernier argument, je prends bien soin à ne faire jamais partie d'aucune instance officielle qui énonce des avis concernant notre consommation. Je n'ai jamais participé à aucune commission de l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, de l'AFSAPS, l'équivalent pour les médicaments, de l'AFSE, l'équivalent pour l'environnement. Donc j'ai ma liberté de parole la plus totale. Alors en plus, ces accusateurs sont fort mal informés, mais vous l'êtes bien vous-même, puisque dire du bien des charcuteries, mais c'est le bon sens le plus complet. La moitié des charcuteries consommées par les femmes, c'est le jambon cuit. Le jambon cuit est à 2% de matière grasse, donc peu gras.
C'est donc certaines charcuteries.
Donc c'est, mais bien sûr, le manger du boudin noir, c'est le meilleur moyen de trouver du fer dont les femmes, entre la puberté et la ménopause, manquent, et pour nombre d'entre elles, de manière dramatique. Alors bien évidemment, il y a une pathologie qui s'appelle l'hémochromatose, mais on ne va pas empêcher toutes les femmes de consommer du fer, car malheureusement, ou au prétexte que malheureusement, certaines sont déficitaires. Simplement pour rappeler que, on dit toujours que j'ai été président, que je suis président du comité scientifique de la communication de la charcuterie, oubliant que ça fait exactement 7 ans que je ne leur ai pas adressé la parole, ce qui ne m'empêche pas de continuer à dire du bien de ces produits que je viens de citer. Donc c'est un peu la loi du genre. Si vous voulez faire un scoop en disant du mal du hachis parmentier, le scoop sera modéré, nul dans le monde, modéré en France, car on aime bien Parmentier. Si vous dites du mal du pain, et du mal des poissons, du mal de la pomme de terre, alors vous êtes sûr d'attirer votre attention. Et moi, je dis du bien de ces produits-là. J'observe, et les choses sont prouvées depuis fort longtemps, que consommer du pain à tous les repas, c'est-à-dire des glucides complexes, permet un meilleur fonctionnement cérébral, et ceci à tous les âges de la vie, c'est parfaitement mesuré, c'est efficace, donc il n'y a pas de raison de le dire. Les gens qui le disent, ce sont les gens de la profession, et j'essaye de les aider à le dire, et je pense que c'est mon rôle, et c'est d'ailleurs le rôle aussi du gouvernement maintenant, puisque c'est précisément, je le rappelle encore une fois, l'objectif du programme national nutrition santé. Le gouvernement dit qu'il faut manger des glucides complexes dont du pain. Le gouvernement dit qu'il faut manger des fruits et légumes. Le gouvernement dit qu'il faut manger du poisson, si possible gras, au moins 2 fois par semaine en variant les espèces. Donc je suis en accord avec toutes les connaissances scientifiques, médicales, politiques et intellectuelles. Il y a quelques misérables qui critiquent. Laissons-les dire, cela fait de la publicité.
Finalement, le secret, c'est d'avoir une alimentation variée.
Tout à fait. Alors malheureusement, ça, ce n'est pas un exploit de l'affirmer.
Oui.
On revient à la connaissance de cette alimentation variée, et on est obligé de trouver le bénéfice de certaines classes d'aliments qui étaient consommées par nos ancêtres depuis des millénaires, que nous avons abandonnées pour diverses raisons, notamment économiques, mais pas uniquement, et dont il nous faut maintenant montrer l'utilité en termes de réapparition de pathologies, malheureusement, pour qu'ils soient réintroduits dans l'alimentation. Les oméga-3, on en parle. N'oubliez pas que le sel iodé, c'est le même combat. Ce sont aussi les poissons et les fruits de mer. On s'est rendu compte que le sel iodé a mené à un problème dramatique, qui est le crétinisme. Le terme de crétin est un terme strictement médical qui traduit le déficit en iode pendant la grossesse. Conséquence de l'insuffisance de consommation de poissons et de fruits de mer. Donc, pour éviter le crétinisme, on a mis l'iode dans le sel. À mon avis, il vaut mieux manger du poisson et des fruits de mer.
Alors, juste pour terminer cette émission sur les oméga-3, est-ce que vous pourriez nous faire rapidement le menu idéal riche en oméga-3?
Non, ça je ne pourrais pas, parce que en fait la diversité alimentaire impose de manger nombre d'aliments. Néanmoins, concernant les oméga-3, vous l'avez compris, la palette n'est pas aussi large que ça. Ce sont 1. l'huile de colza, l'huile de noix et les noix avec les œufs issus de poules qui ont été dénourries avec des graines de lin. 2, les poissons et les fruits de mer. Et d'une manière plus générale, les viandes issues d'animaux qui ont été nourris notamment avec des graines de lin. Pour le sujet spécifiquement oméga 3, mais vous l'avez compris, quand on parle des poissons et des fruits de mer, on parle aussi de la vitamine D, on parle aussi de l'iode, on parle aussi du sélénium, nous n'en avons pas parlé, qui protège contre le vieillissement, notamment cérébral. On parle aussi de protéines de qualité, donc le sujet est extraordinairement vaste.
Eh bien, merci Jean-Marie Bourg. Je rappelle les deux ouvrages qui m'ont servi à préparer cette émission. Le premier, Diététique du cerveau, la nouvelle donne, qui est un best-seller, hein, qui est publié, republié, réédité hein, de nombreuses fois. Et puis le deuxième, La vérité sur les oméga 3, également publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup Jean-Marie Bourg de nous avoir rendu visite, de nous avoir fait le point sur les oméga 3, la vérité sur les oméga 3, et puis d'avoir répondu également à vos contradicteurs, et puis d'avoir peut-être aussi répondu à nos inquiétudes. Merci beaucoup, et puis je l'espère à une prochaine fois.
Merci pour votre accueil, mais avec le plus grand plaisir.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.